6-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 septembre. Anaïs Peugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, du jamais vu dans la flambée des prix du gaz. Nouvelle augmentation ce vendredi 1er octobre, plus 59% au total depuis janvier. Témoignage, explication dès le début du journal, après les autres titres, Anaïs.
Les consultations chez le psychologue, peut-être bientôt remboursées, clôture aujourd'hui des assises de la santé mentale. Manœuvre politique en Allemagne après les élections, les Verts et les Libéraux se parlent. Et puis, nouvel album du violoniste Renaud Capuçon, musique minimaliste estonienne. C'est pas mal du tout, vous entendrez.
Et nos invités ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Actrice, réalisatrice, metteuse en scène, touche à tout et douée en tout. Elle met en scène Dorothy, hommage personnel à Dorothy Parker et l'occasion de parler d'elle et de l'époque. Zabou Breitman sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouve, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter. C'est la quatrième augmentation en 4 mois et aussi la plus salée. Le tarif réglementé du gaz va bondir de près de 13% vendredi. 3 millions de foyers concernés. Et pour ceux dont les fins de mois sont déjà difficiles, le pire est à venir. Reportage Julien Morcelli dans le 20e arrondissement de Paris.
Au pied d'une barre d'immeuble, Moussa discute avec ses amis. Il vit en location avec sa copine.
C'est dur à s'en sortir pour payer tous les loyers, ça va. Mais l'électricité, là, c'est trop. Avec le gaz, surtout le gaz, ça coûte très cher. 200 euros, des fois, ça peut monter 300 euros, ça dépend. Hein.
D'autant que, comme beaucoup de vieux bâtiments de la rue, le sien est mal isolé.
L'hiver, on va chauffer, on va payer, ça va pas chauffer. C'est pour ça que ça coûte cher.
Un peu plus loin, Christine, retraitée, sort d'un petit supermarché.
Là, moi, j'arrive pas. Par exemple, ce mois-ci, j'ai rien. Je pouvais regarder dans mon sac, je reviens de Lidl.
Vous prenez le minimum ?
Le minimum.
Et quand il s'agit de payer les factures, elle retarde l'échéance.
Là, j'ai mis les chèques de côté. J'attends le 8, le 9. La banque, j'ai un découvert de 1000 euros.
Sur le trottoir d'en face, Fatou dépose le linge de ses 3 enfants au lavomatique. La chambre des petits, c'est la seule pièce de l'appartement qu'elle continue de chauffer.
Dans leur chambre, j'étais pas complètement, parce que je veux pas qu'ils tombent malades non plus. Parce que vu que ça a augmenté de 12%, donc c'est normal, je veux continuer à faire ça. J'ai pas le choix. Le plus important maintenant, c'est de manger. Et si on n'a pas le moyen, comment on va faire ?
Selon la dernière étude de l'Observatoire national de la précarité énergétique, 3,5 millions de ménages rencontrent les mêmes difficultés que Fatou.
Et au total, depuis janvier, le prix du gaz a augmenté de 59%. Il faut dire que la France l'importe en quasi-totalité. Et c'est bien l'envolée du gaz sur le marché mondial qui est en cause, selon Philippe Chalmin, professeur à Paris Dauphine.
La raison à cela en Europe, des niveaux de stock avant l'hiver, qui est la grande période de consommation, extrêmement faibles. Un, parce que la production européenne diminue, notamment aux Pays-Bas. Deux, parce que des gaziers européens ont tardé à reconstituer leur stock du fait de l'instabilité des prix. Trois, parce que cet été, il a fait très chaud, donc on a plus consommé pour nos climatiseurs. Et il n'y a pas eu de vent, ce qui veut dire que les éoliennes ont moins tourné, en particulier en Allemagne. Enfin, 4, la stratégie russe a joué. Gazprom honore ses contrats, mais ils ne vont pas au-delà. Qu'on le veuille ou non, c'est une pression de la Russie vis-à-vis de l'Europe occidentale sur le dossier ukrainien. Du coup, l'Europe s'est retournée vers les marchés internationaux, eux aussi extrêmement tendus du fait de la demande en Chine. Et voilà pourquoi le prix du gaz se trouve multiplié par 5 ou 6.
Philippe Chalmin avec Louise Baudet. Quelle que soit l'explication, le sujet embarrasse l'Élysée à l'aube de la campagne. On en parle dans le journal de 8h.
Il est 7h04 et c'est un secteur poussé au bord de l'implosion par la crise sanitaire.
12 millions de Français souffrent de troubles psychiatriques dans le sillage de la pandémie de Covid-19. Les psychologues sont en grève et devant le ministère de la Santé cet après-midi où se tient le dernier jour des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Emmanuel Macron pourrait y annoncer le remboursement des consultations chez les psychologues. L'expérimentation existe depuis 2 ans. Décision autant attendue que redoutée par les professionnels. Véronique Julia.
Depuis des mois qu'on évoque le sujet, ce n'est pas tant sur le principe que sur ses conditions de mise en œuvre que ça bloque. Rembourser des séances de psychologue pour désengorger l'hôpital ou répondre au manque de psychiatres, pourquoi pas ? D'après un sondage réalisé cet été par l'association de psychologues Propsy, la profession d'ailleurs n'y est pas hostile. 75% des psychologues y seraient même ouverts. En revanche, 30 minutes de consultation pour 22 euros, c'est la durée et le montant de la consultation qui circule, ça ne passe pas. Mais alors, pas du tout. Plus de 90% des psychologues interrogés s'y oppose. Et même les usagers sondés, eux aussi, dans cette enquête, estiment que 30 minutes ne suffisent pas. Maximilien Bachelard est le vice-président de l'association Propsy.
Ils peuvent bien se rendre compte que ce tarif, il est bien insuffisant. Si vous le comparez à d'autres objets de consommation, il y a quelque chose qui ne va pas. On sera obligé de se retrouver dans une forme d'abattage. Les Français ont vu l'émission en thérapie sur Arte. Ils se sont bien rendus compte qu'une consultation, ça ne pouvait pas se faire en 10 minutes non plus. Il faut savoir si on choisit à un moment donné de sacrifier toute la qualité pour le pas cher ou pas.
En moyenne, les psychologues ont des consultations qui durent plutôt 45 minutes à 1 heure et des tarifs plus proches de 60 euros la séance. Le remboursement, s'il était décidé, se ferait sur la base du volontariat. Mais la profession craint que les jeunes diplômés, pour se constituer une patientèle, s'y engouffrent pour ensuite très vite déchanter financièrement.
Le ministre de la Santé doit aussi valider la préconisation de la Haute Autorité de Santé, à savoir recevoir en même temps le rappel contre le coronavirus et le vaccin contre la grippe, une piqûre dans chaque bras. La campagne de vaccination commence dans un mois. Des doses supplémentaires ont été commandées, avec peut-être un jour un vaccin contre la grippe à ARN messager. Pfizer est en train d'en tester un, avec pour ambition d'en faire un vaccin plus efficace que ceux à virus inactivé. Le labo a aussi commencé un essai clinique pour sa pilule anti-Covid. Elle est censée réduire à titre préventif le risque d'infection chez les proches d'une personne malade. Voilà qui pourrait être utile dans les écoles, selon les syndicats. Le ministère de l'Éducation nationale réfléchit à un nouveau protocole, tester toute une classe plutôt que de la renvoyer chez elle si un cas positif est avéré. Pour Marine Le Pen, la priorité, c'est le référendum sur l'immigration. La candidate du Rassemblement national présente cet après-midi son projet de loi sur le sujet. Élodie Fauré, la chef de file de l'extrême droite, ressort parmi ses mesures phares celle de la priorité nationale.
Inscrire la priorité nationale dans la Constitution et la rendre ainsi inattaquable, c'est l'idée principale que Marine Le Pen voudrait soumettre aux Français. Une priorité nationale interdite aujourd'hui en France qui s'appliquerait à l'embauche pour l'attribution des logements sociaux de la commande publique. Objectif, dissuader les migrants en durcissant aussi les conditions d'obtention des titres de séjour, de la nationalité et de l'asile. Marine Le Pen, invitée hier soir du JT de France 2.
Que les demandeurs d'asile effectuent leurs demandes non pas après être arrivés sur le territoire français, alors que lorsqu'on leur refuse l'asile, eh bien, ils restent et deviennent des clandestins sur notre territoire, mais puissent le demander dans n'importe quel consulat, n'importe quelle ambassade, et ne pourraient, dans ces cas-là, rejoindre le territoire national que lorsque la France leur aurait véritablement accordé ce droit d'asile.
Durcir l'entrée tandis que les expulsions seraient facilitées. Ce projet de loi est un appel général, explique un cadre du RN. Ce n'est plus la peine de venir en France. Un appel général aux migrants et aux électeurs face à Éric Zemmour, tenté d'apparaître comme la candidate des solutions concrètes.
Réduire l'immigration familiale et humanitaire reste contraire aux conventions internationales. Jordan Bardella est l'invité à 8h20. Les images de vidéosurveillance ont animé l'audience hier du procès d'Alexandre Benalla, contre-feu allumé à l'époque par Ismaël Melien, le conseiller spécial d'Emmanuel Macron. On voit sur ces images un homme jeter une carafe sur des CRS, sauf que diffuser ces images de vidéosurveillance est illégal. Ariane Grissel, on a surtout compris hier la panique qui s'est emparée de l'Élysée.
Après les révélations du Monde, Ismaël Emelien demande à Alexandre Benalla de lui renvoyer les images d'un manifestant violent que le chargé de mission lui avait déjà fait parvenir. « Besoin de ta vidéo, ASAP », lui écrit-il dans un message diffusé hier à l'audience. Autre texto un peu plus tard, révélateur de la nervosité ambiante, « As-tu bien nettoyé ton Facebook ? On m'a parlé de voitures de luxe à Dubaï ». Quand Alexandre Benalla lui remet le CD, Ismaël Emelien constate que ce n'est pas la vidéo demandée, mais décide de quand même la diffuser sans se rendre compte, dit-il, que ces nouvelles images viennent de la vidéosurveillance. Vous ne vérifiez jamais l'origine, s'étonne la présidente auprès de celui qui était responsable de la communication digitale de l'Élysée. En l'occurrence, non, pour moi, c'était une vidéo prise dans la rue. Récit qui donne le sentiment que tout a été fait dans la précipitation. Pourtant, l'entourage d'Emmanuel Macron a été averti de l'épisode de la contre-escarpe quelques heures après les faits. À l'époque, début mai 2018, a confirmé hier Ismaël Emelien, personne au service communication de l'Élysée ne juge utile d'anticiper une éventuelle explication pour le grand public.
Au procès des attentats du 13 novembre 2015, on ouvre aujourd'hui les 5 semaines de récits des parties civiles, témoignages dans le journal de 7h30.
En Allemagne, il est 7h10, bras de fer inversé.
Les gagnants SPD et CDU revendiquent de former un gouvernement après les législatives, mais ceux qui tiennent les clés d'une future coalition, ce sont bien les perdants de dimanche, les Verts et les Libéraux, et ils ont déjà entamé leur propre discussion. À Berlin, Cyril Sauvageau.
Une première réunion est prévue ce mercredi à Berlin, entre le chef de file des Libéraux libéraux, Christian Lindner, et l'écologiste Annalena Baerbock. Les Verts et le FDP veulent d'abord se sonder mutuellement avant de s'embarquer dans des négociations avec l'un des deux grands partis. Le traumatisme de 2017 est encore dans toutes les têtes. Après les précédentes élections, ils n'avaient pu que constater leur divergence une fois autour de la table en compagnie des conservateurs d'Angela Merkel. L'échec des négociations avait débouché sur une reconduction pour 4 ans de la grande coalition sans eux. Cette fois, les Grünen et les libéraux se disent prêts. Ils souhaitent entrer au gouvernement pour contribuer à la modernisation dont l'Allemagne a besoin. Sur plusieurs sujets, comme l'énergie ou la décarbonisation de l'industrie, ils pourraient trouver un terrain d'entente. Mais là où le FDP veut baisser les charges et les impôts, les Verts proposent plus de dépenses sociales. Chacun devra donc faire des compromis tout en s'assurant de ne pas trahir sa base. Les deux formations se savent investies d'une responsabilité pour l'avenir du pays. Elles sont arrivées en tête du vote des jeunes de moins de 35 ans. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
Après le revers des sous-marins australiens, l'industrie d'armement française pourrait rebondir. Le président de la République reçoit ce matin le Premier ministre grec. Partenariat stratégique renforcé et peut-être une commande pour un Naval Group annoncée. Drôle de mésaventure pour un chef étoilé d'un restaurant de Monaco bloqué à la porte de la préfecture du Rhône alors qu'il était invité au dîner présidentiel en marge du Bocuse d'Or. Carton d'invitation en bonne et due forme. Mais Marcel Ravin n'était pas sur la liste, lui ont dit les employés de l'organisateur JL Events. Marcel Ravin, chef cuisinier martiniquais, il parle d'humiliation. JL Events s'excuse et plaide l'erreur. Allez, musicien de talent et désormais chef de l'orchestre de chambre de Lausanne, Renaud Capuçon met une nouvelle corde à son violon et publie un nouvel album consacré au compositeur estonien Arvo Pärt. Stéphane Capron l'a écouté et il a aimé.
Pour son premier album en tant que chef d'orchestre, Renaud Capuçon se dédouble. Il est à la fois derrière le pupitre pour diriger et parmi les musiciens pour quelques morceaux. Avec son violon, il emmène l'orchestre de chambre de Lausanne vers les sommets.
Quand on est concentré sur justement les musiciens, on se libère beaucoup plus sur l'instrument. On est beaucoup moins focalisé sur soi-même et sur l'instrument et du coup on est beaucoup plus libre. C'est assez paradoxal. Et l'orchestre écoute aussi avec une oreille différente quand le chef est aussi soliste parce qu'il se sent plus responsable.
Arvo Pärt est chrétien orthodoxe. Sa musique est remplie de spiritualité. Elle a souvent été utilisée par le cinéma et par les chorégraphes. Elle laisse place à beaucoup de liberté pour les interprètes. C'est une spirale entêtante.
Il arrive à nous emporter dans son univers, à nous hypnotiser en musique d'une certaine façon, mais pas dans le sens étrange du terme, dans un sens où on est extrêmement bien, on est porté et on est en pleine possession de ses moyens de rêve, je dirais. C'est-à-dire que c'est une musique qui nous porte à rêver, qui est extrêmement parlante et brûlante en même temps.
Cet album est le plus envoûtant de la rentrée. Renaud Capuçon frappe un grand coup en livrant une version magistrale de l'œuvre de l'un des maîtres du courant de la musique minimaliste.
Minimaliste et musical, hein, Nicolas. Ça s'appelle Tabula Rasa sur le label Erato.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes sur l'éducation nationale par contrat.